deuxième partie, un petit peu, si l'on peut dire, dans ce débat, comment vous placez vos alternants? Donc, on a compris comment ils arrivent chez vous, comment après, un petit peu, comment ça peut se passer, mais comment vous les placez? Comment ça se passe?
Du coup, une fois qu'on a le contact avec l'entreprise, du coup, on établit une fiche de positionnement et puis l'entreprise, du coup, évalue les missions. En fait, et on évalue le besoin de l'entreprise, surtout en amont, bien sûr, quand on a le contact avec l'entreprise. C'est d'abord d'évaluer son besoin pour définir la formation adaptée. Et puis ensuite, on met en relation, du coup, des CV, puisqu'on a le besoin de l'entreprise. On demande bien sûr le besoin du jeune parce que maintenant
on y viendra un peu plus tard, mais effectivement c'est important.
Et puis
sûr.
Du coup ensuite on propose plusieurs CV à l'entreprise et puis ensuite donc c'est l'entreprise qui fait son choix pour les recevoir en entretien. Et puis du coup ensuite on envoie une fiche de positionnement et puis c'est nous qui faisons les contrats d'alternance. Donc en fait l'entreprise nous demande faire les contrats auprès des OPCO, on fait les déclarations auprès des organismes financeurs. Et puis voilà, ensuite le jeune intègre l'école.
Après, il n'y a plus qu'à bosser, quoi.
C'est ça.
Malgré tout, est-ce que dans l'IT, puisque c'est quand même la problématique un petit peu précise de ce débat, est-ce qu'il y a des particularités, justement, dans ce domaine en particulier? Peut-être la question est pour vous, Laurent.
Alors, nous, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est qu'on envoie toujours plusieurs candidats. Comme l'a dit Alison, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut à tout prix qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le recruteur et le futur apprenti. C'est un contrat de travail qui va découler. Donc c'est vraiment important qu'on ne fait pas vraiment du placement. On fait plutôt de la mise en relation entre un candidat et une entreprise. Après, il n'y a pas forcément de grandes spécificités dans le domaine de l'IT. Bien sûr, il y a tout ce qui est côté technologique. Bien évidemment, il faut qu'ils aient
peut-être
un certain nombre de
connaissances. Peut-être que ça évolue plus vite que dans d'autres secteurs. C'est peut-être ce qu'on peut peut-être observer dans votre domaine, non?
Oui, c'est un secteur qui évolue. Et donc forcément, les demandes, nous, on est obligé de s'y adapter. Déjà pour former nos jeunes aux technologies de demain. Et puis aussi pour répondre aux besoins des entreprises.
Il y a des profils d'élèves en particulier. C'est plutôt des garçons, plutôt des filles, et on peut distinguer ça comme ça ou d'une autre façon? Parce que parfois on dit que dans ces milieux, attire encore plus les garçons que les filles. Est-ce que c'est la palissade ou est-ce que c'est une vérité?
C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Ouais. Ce qui est dommage, parce que souvent les filles qui sont dans ce domaine sont des très bons profils.
Comme toujours. Donc il faut effectivement mettre en valeur ces métiers parce qu'effectivement c'est à la portée de tout le monde et c'est vrai que c'est important de le préciser. Au niveau du choix des entreprises, est-ce que, sans citer évidemment quiconque, mais parfois est-ce que ça peut mal se passer et pourquoi?
Alors ça peut mal se passer, notamment on a remarqué que c'était souvent dans les 45 premiers jours qui sont la période d'essai.
C'est ce que j'allais vous dire.
Des étudiants.
Comme dans la vie en général, finalement.
Tout à fait ça. Ouais. Donc nous, on a mis en place avec les chargés de relations entreprises un suivi. Donc on a 4 suivis sur les 2 ans et donc 2 suivis sur la première année. Et notamment le plus important pour nous, c'est le suivi d'installation qui se fait du coup pendant les 3 premiers mois après le début de la formation. Et qui permet notamment d'éviter ces ruptures. Les conflits sont surtout basés sur de l'incompréhension, notamment du jeune, sur les règles de l'entreprise, qui peuvent parfois être mal perçues, mais c'est pareil partout. Donc on lui fait comprendre qu'il faut, s'adapter. Et puis des fois, c'est de l'autre côté, l'entreprise aussi, qui peut potentiellement, des fois, négliger son côté apprentissage, c'est-à-dire que le jeune est en apprentissage et il ne peut pas être formé. C'est pas un salarié classique à temps plein, il doit être formé. Donc, on essaye d'être le médiateur du coup entre les deux parties afin d'éviter d'avoir ces ruptures.
Point important, salarié un peu particulier. Oui. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Benoît, vous êtes de l'autre côté, de la chaîne. Comment vous les recrutez, vos alternants, et comment ça se passe après, concrètement parlant?
Nous, on les recrute principalement par rapport à ce qu'on appelle des soft skills, entre guillemets, à leur façon de s'exprimer, à leur envie d'apprendre, à leur envie de voir des choses nouvelles. Honnêtement, nous, on fait pas de test technique à l'entrée sur les alternants, puisque on fait confiance à l'école, en fait. Si l'école, quand on est sur des forums école, par exemple, si l'école nous présente ces profils-là, c'est qu'ils ont le niveau, requis. Nous, on fait confiance à l'école là-dessus, et on a aussi des particularités par rapport à notre métier où on doit vraiment apprendre techniquement ce qu'on fait. Les jeunes n'ont pas pu rencontrer nos spécificités techniques avant dans leur cursus. Donc nous, là-dessus, c'est vraiment par rapport à... C'est vraiment ces soft skills, à ce savoir-être, entre guillemets, qu'on les recrute. Et nous, on cherche principalement des contrats assez longs, sur 3 ans, 2 ans, pour justement prendre le temps de correctement les former, de prendre le temps de leur montrer ce qui est les particularités de notre travail et avoir le temps de justement faire ça, pour derrière qu'en fait cette alternance se transforme en tremplin pour un CDI derrière.
Vous avez des alternants dans quel genre de domaine, pour être précis?
Alors nous, par rapport à notre... c'est plus donc dans du logiciel, donc plutôt du développeur. Mais on essaie aussi de s'adapter aux alternants en poussant leurs points forts. Donc c'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a des profils qui sont beaucoup plus à l'aise sur vraiment de la recherche technique, aller chercher techniquement comment ça marche, des nouveautés, etc., on va plus s'orienter peut-être vers de la R&D. Si c'est des personnes qui sont plutôt à l'aise à l'oral, qui ont plutôt une certaine affinité avec la relation client, peut-être plus l'orienter vers du consulting auprès du client, etc. Nous, on essaie vraiment de mettre en avant les points forts de nos alternants pour leur trouver ce qui leur convient le mieux et aussi bien suivre ce qu'eux ont envie. On va pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire du consulting à faire du consulting non plus.
Alors vous êtes maître d'apprentissage au sein de Cosmo Consult, mais il y a une particularité, c'est que vous n'êtes pas vraiment le supérieur hiérarchique.
Nous, aujourd'hui, chez Cosmo Consult, on a pris le parti de séparer le maître d'apprentissage du supérieur hiérarchique. Pourquoi ? Déjà, au niveau des maîtres d'apprentissage, on essaye de mettre des personnes qui ont connu ce que va faire l'alterne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre quelqu'un qui est vraiment manager, on va mettre quelqu'un qui est dans la technique avec lui pour pouvoir le faire monter comme il faut. Et ensuite, le fait d'avoir cette séparation entre MAP et supérieur hiérarchique, ça permet aussi aux jeunes de plus facilement venir nous voir, nous poser des questions qu'ils ne poseraient pas forcément si c'était vraiment un supérieur hiérarchique. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve vraiment très intéressant là-dessus et ça permet vraiment d'améliorer encore cette partie montée en compétences et amélioration des compétences et du savoir-être aussi et du savoir-faire des apprentis.
Tout à fait. Alison, Laurent, ça vous parle, cette façon de gérer l'apprenti ?
Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours ce que l'on rencontre.
Oui, parce que voilà,
dans la majorité des cas, on va avoir le supérieur hiérarchique qui va être le maître d'apprentissage pour le jeune. Mais c'est vrai que c'est vraiment une très bonne formule. Ça permet de l'épauler au quotidien et d'enlever cette relation hiérarchique et...
qui peut être une barrière, j'imagine.
Ouais. Hein, ouais.
Quand on est jeune et qu'on commence à travailler, ça enlève sûrement psychologiquement tout un arrière, une arrière boutique qui peut être sûrement un frein. Il peut y avoir aussi, j'imagine, d'autres freins, parce que c'est un peu la question qu'on peut se poser après. C'est, là, on a parlé de vos attentes respectives, de la structure que vous avez, les uns et les autres, mais il y a aussi les attentes aujourd'hui des candidats. Alison, le sens au travail, le Covid est passé par là, la société a changé.
C'est ça.
Le jeune de 20 ans en 2024, c'est pas moi. J'ai plus 20 ans, j'imagine. Donc comment ça se déroule concrètement parlant?
Alors on a remarqué qu'il y avait des profils qui étaient beaucoup plus exigeants, notamment sur tout ce qui est bien-être au travail, mais également que le poste devait trouver du sens justement à leur travail. Et puis ils ont du mal à se lancer dans le monde du travail des fois après leur formation. Il y en a qui sont qu'ils ont une certaine maturité, donc mais c'est vrai que ça a été compliqué après le Covid de reprendre du coup ce train-train en disant il faut se lever pour aller au travail.
Il n'y a plus de visio, c'est terminé.
Donc du coup, c'est ce qui nous a donné, là, pendant 2 ans, on a eu beaucoup de ruptures, notamment de contrats. du fait que bah, il y avait des incompréhensions entre les entreprises et les étudiants qui avaient passé 2 ans en visio, en cours. Mmh.
Et ça chope sur quoi ? C'est sur le sens, c'est sur le rythme de travail, c'est sur les exigences, sur le management. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, ça peut encore coincer ?
Je pense qu'il y a du management, mais il y a également des jeunes qui ne comprennent pas, on va dire, les exigences des employeurs. Dans le sens où, oui, il y a des horaires, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des horaires. Je dois venir à l'heure, je ne dois pas être absent, je dois justifier mes
Je ne bois pas 15 cafés dans la journée.
C'est ça, je ne peux pas partir du travail comme ça sans demander à mon employeur. Enfin, il y a toutes ces règles-là à travers lesquelles, du coup, ils n'ont pas pu... Ils n'ont pas pu avoir ces règles pendant 2 ans puisqu'ils étaient à la maison, au lycée. Donc du coup, voilà, il faut les reformer, les former sur
ce genre de points.
Ce genre de points.
Vous confirmez, Benoît, ce type de choses. Comment vous les accompagnez justement dans leurs demandes à ces jeunes ?
Alors nous, vis-à-vis des problèmes d'horaire, etc., on n'a pas eu vraiment de problème. Par contre, oui, il y a vraiment une demande de sens. Beaucoup de choses au niveau de la RSE, donc le bien-être au travail, le respect sur l'écologie, ce genre de choses-là, de plus en plus présent. Et nous aussi, on a eu des demandes par rapport aux clients avec qui on travaille aussi, pour travailler avec des personnes qui sont dans de l'éthique, qui sont plutôt éthiques ou ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui s'intéresse vraiment de pour qui ils travaillent et qu'est-ce que ça va donner derrière au niveau des clients. Et au niveau du management aussi, et ce genre de choses.
La question que je peux vous poser à tous, c'est quand on dit éthique ou bien-être au travail, parce que ça, c'est des grandes pensées, mais concrètement, ça se concrétise par quel genre de demande, en fait ? Le bien-être au travail, qu'est-ce que c'est pour eux ? C'est une plante verte, c'est un canapé, c'est des horaires aménageables, c'est une éthique, c'est l'écologie, c'est le transport, c'est qu'est-ce que c'est concrètement parlant ?
Moi je pense qu'en fait c'est qu'ils ont envie d'être écoutés en fait, et de qu'on comprenne quels sont leurs besoins et leurs envies, et qu'on essaye de, dans la mesure du possible bien sûr, mais de coller à leurs envies. C'est-à-dire que ça peut être, moi j'ai besoin ce jour-là de finir plus tôt parce que j'ai des contraintes personnelles, mais je peux reprendre le travail après. J'ai besoin d'avoir une journée de télétravail. Parce que le but, c'est ça, en fait. C'est vraiment qu'on soit plus centré sur l'aspect humain du travail que vraiment sur l'aspect, restitution de travail dur. Et aussi, on a vraiment cet aspect écologique, nous, qui rentre vraiment en compte sur les demandes. Que les profils voient qu'on essaie de faire quelque chose au niveau du changement climatique et de ce genre de choses-là.